La maison hantée. L'homme se tenait debout, un peu emprunté dans son habit du dimanche, et ruant sur ses gros doigts son chapeau de feutre marron. Nous disons donc que la journée sera de 4 francs, y compris le logement, sans la nourriture. Et tout en faisant cette condition, le contremaître l'examinait de son œil connaisseur, habitué à juger en un instant ce que pouvait valoir un ouvrier. Solide gars, du reste, que celui qui se présentait ainsi à l'embauchage, avec ses épaules trapues, sa nuque massive, où frisaient de courts cheveux roux, ses mains noueuses aux pouces énormes. En plus, un gailluron, sans doute, en jugé par le regard narquois qui jaillissait de ses claires prunelles et le pli sardonique qui, sous la moustache blonde, creusait sa lèvre inférieure. « Bon, c'est dit, » acquiesça l'homme flegmatiquement. Et le contremaître reprit. « Bien, répétez vos noms et vos prénoms, votre lieu d'origine. » Et tandis qu'il écrivait sur un carnet, l'homme dit encore « Jean-Jacques François Mabille. » Natif de la ville d'Angers. Puis tout de suite après, mais ça, où me logerez-vous maintenant? Je suffoque, moi, dans ces habits, et j'ai vraiment hâte d'enfiler la blouse de travail. Alors ici, le contremaître hésita visiblement. « Mon Dieu, c'est pas commode. Nous sommes débordés par nos ouvriers. Il y en a tant de ces angevins comme vous qui viennent travailler aux ardoises. Pourtant, il reste bien une maison, et tout entière encore. Oh, fit ma vie, je suis pas exigeant. » Pourvu qu'il y ait un lit et de quoi faire cuire ma soupe, je me trouverai bien partout où l'on voudra bien me mettre. Mais le contremaître, au lieu de se décider, s'embarrassait davantage, enfin d'un air qu'il voulait rendre négligent. « Soit, dit-il, on va vous conduire à la maison. Une fois là, ben vous vous débrouillerez. » Il donna ses ordres en conséquence et fit signe à Jean-Jacques Mabille qu'il eut à se retirer. Bientôt, celui-ci, guidé par un futur compagnon de travail, gagna le gîte qu'on lui avait attribué. Oh, c'était à un quart d'heure des ardoisières qu'on était en train d'exploiter. Une maison presque neuve et d'assez bonne apparence. 2 étages, des volets marrons, un jardinet mal soigné où poussaient pêle-mêle des salades montées et des fruits de mauvaises herbes. Et à cette vue, Jean-Jacques Mabille était tout joyeux. Oh, c'est donc ça la bicoque. Ah, oh, mais aussi vrai que je suis fils de mon père, c'est le plus bel endroit que j'ai jamais eu de ma vie. Mais son compagnon avait un énigmatique sourire. Faut dire cela aujourd'hui, reste à voir demain. Et sans s'en expliquer davantage, lui tendit une grosse clé et se mena bien vite à longues enjambées. Resté seul, Mabi eut un haussement d'épaule d'un superbe mépris, et avec une ironie plus accentuée encore que d'habitude, se dit en lui-même « Ah, c'est savoyard! Et ça, c'est superstitieux! Parbleu, je les entends bien, le contremaître et autres. Ils sont capables de croire à la maison hantée. Autrement, il est clair qu'on ne me l'aurait pas donné. Pas bien. Jean-Jacques, mon ami, il n'y a que ça pour t'empêcher de dormir. Tu peux compter encore sur pas mal de belles nuits. » Tout en monologuant de la sorte, il avait ouvert et voyait devant lui une sorte de corridor aux portes, deux portes et un escalier de bois conduisant à l'étage supérieur. La première porte donnait sur une cuisine, la seconde sur une chambre où se trouvait un lit, une table, deux chaises, et le tout propre et bien rangé, mais exhalant une forte odeur de moisie. Quand il eut ouvert les fenêtres toutes grandes, et que le soleil entrant à flot illumina l'appartement, Jean-Jacques eut un mouvement de satisfaction. Et le fut courte du reste, car depuis le temps qu'il roulait par le monde à la recherche d'un gagne-pain, Mabi n'avait qu'à rencontrer bonne fortune. En guise de métier, il avait essayé de tout, et pourvu qu'il ait sa liberté, les travaux les plus pénibles n'étaient point pour l'effrayer. Il était couché un peu partout, il avait couché dans les forêts, sous les ponts, à la prison, après quelques batteries. Mais le corps durci, l'âme plus dure encore, il portait allègrement le poids de sa misère. Il ne connaissait au monde ni gens ni bêtes qui se fait son deuil. Le soir tombait, il était trop tard pour en aller au village. Cela, Jean-Jacques résolut de souper d'un reste de pain et de fromage acheté pour son déjeuner, puis de se coucher, après, afin d'être le lendemain, levé avec le jour. Son lit vite préparé, à quoi bon un luxe de drap, lorsqu'on a une paillasse et de couverture, il s'étendit, dessus tout habillé, et comme il était très fatigué, ayant ce jour-là plus de 40 km dans les jambes, il s'endormit aussitôt à point fermé. Il y avait quelques heures déjà qu'il reposait ainsi, lorsque, à travers son engourdissement profond, il lui sembla entendre quelque chose d'étrange. Certainement, on remuait dans la maison, juste au-dessus de son lit. Le plafond craquait et gémissait, comme si on avait provoqué quelque chose de pesant. Le bruit augmentant toujours, Jean-Jacques finit par écouter et secouer la torpeur qui le clouait au lit immobile sur sa couche, et brusquement réveillé, d'un bond, il fut debout, prêtant l'oreille. Il n'avait pas rêvé. À l'étage supérieur, on allait et venait, mais cela ne ressemblait pas au pas d'un homme. C'était une sorte de bourdonnement qui variait d'intensité suivant que le bruit se produisait dans la pièce correspondante à la sienne ou dans la chambre contiguë. Ah, se dit Jean-Jacques, toujours ailleurs. Voici mon revenant, sans doute. Attends un peu, cher ami, j'aille te dire deux mots. Le bruit résonnait de plus belle. On eût dit d'un tourbillon qui, sans interruption, passait d'une chambre dans l'autre. Tantôt on l'entendait à droite, tantôt à gauche. Jean-Jacques fit la réflexion que cela était pour le moins étrange, car il avait bien remarqué, en visitant la maison, que les deux chambres du haut ne communiquaient pas entre elles et n'avaient de sortie que sur le corridor. De plus, quand il voulut appuyer sa main sur la clé pour l'entrer doucement et surprendre l'auteur du bruit, il trouva la porte fermée en dedans, en dehors, telle qu'il l'avait laissée lui-même à la veille du soir. Tout autre à sa place eut eu un moment de frayeur. Mais Jean-Jacques Mabille était fait de longue date, il s'était fait à ne s'étonner de rien. Il en avait tant vu dans sa vie. Il entra donc, levant sa lumière pour mieux embrasser d'un coup l'intérieur de la pièce. Oh, le tour en était vite fait, au reste, car elle était peu meublée et n'avait pas de recoins. Jean-Jacques s'aperçut tout de suite que le mobilier avait été fourragé, les couvertures d'un violemment arrachées et jetées au volet à l'autre bout de la pièce, les chaises renversées, la table retournée, les quatre pieds en l'air. Du reste, rien n'était ni brisé, ni même détruit. Et Mabille eut beau visiter tout, relever les étoffes, regarder sous le lit, il ne trouva rien qui ressemblât, même de loin, à un être vivant. Pendant ce temps, le bruit continuait de plus belle dans la chambre voisine, et Jean-Jacques songea que cette fois, il était bien prêt de venir et de ternir son affaire. Sans se donner le temps de refermer la porte, il traversa le corridor et se rua dans la seconde pièce. Mais il n'eut pas plus tôt pénétré que le bruit se déplaça et se fit entendre au rez-de-chaussée, dans la cuisine. C'était un tapage à croire que la maison allait s'écrouler. Meubles, vaisselle, verrerie, tout semblait rouler à terre et danser pêle-mêle une sarabande effrénée. Tandis que par-dessus les autres bruits, le grondement inexplicable roulait toujours comme un tonnerre. Oh, nom de Dieu, c'est trop fort! Gronda Mabille exaspéré, et il dévala le long de l'escalier et se précipita dans la cuisine. Sur le carreau rouge et froid qui luisait à la lueur de la bougie, quelqu'un avait entassé sans pitié la batterie de cuisine et le mobilier, et tout cela gisait piteusement à terre dans un désordre inextricable. Et Mabille, qui avait vu la même cuisine parfaitement bien rangée quelques minutes auparavant, ne pouvait comprendre comment un bouleversement pareil avait pu se produire en si peu de temps. En outre, le grondement s'était éclipsé pour reprendre plus fort dans sa propre chambre, Alors, d'un saut, il y fut. Peine perdue. Et déjà le bruit mystérieux tapageait ironiquement en haut de l'escalier. Il voulut se recoucher, mais en une seconde, son lit avait été bien saccagé. Il n'était même plus reconnaissable. La paille arrachée de la paillasse gisait dans tous les coins, toutes les couvertures pliées, trépignaient, formaient une sorte de fin forme. Il voulut se recoucher. Mais en une seconde, son lit avait été si bien saccagé qu'il n'était plus reconnaissable. La paille arrachée de la paillasse gisait dans tous les coins. Les couvertures pillées, trépignées, formaient un tas de informes. L'oreiller pendait à un clou au beau milieu du plat. Vraiment. Et toujours, le tapage infernal continuait sans cesser une minute. Maintenant, il semblait être partout à la fois, mais il se déplaçait vite, en haut, en bas, dans l'escalier, dans la cuisine, contre la porte même de la chambre où se tenait Jean-Jacques. Cette fois, c'était à devenir fou. Et pourtant, ma vie ne se sentait aucune peur. Seulement une colère l'envahissait. Il le faisait sacré juré comme un païen qu'il était. Oh, mille noms de tonnerre, grondait-il entre ses dents. Ah, que je l'attrape, cette carcasse, et tu verras! Lorsque le jour se leva enfin, et que le vacarme cessa brusquement, ma vie était tellement exaspérée qu'il faillit se trouver mal. D'un grand renfort d'eau fraîche, il se remit debout et, le plus calme, se remit au travail. Du plus loin qu'ils l'aperçurent, ses camarades de chantier se mirent à le désigner avec des gestes curieux. Mabile, qui cherchait quelqu'un sur qui passer son enragement, vit là un bon dérivatif. Comme une bête fauve, il se jeta sur le premier qui se trouvait là à sa portée et saisit au collet avec tant de vigueur que le pauvre diable, surpris, fut à sa dernière heure venu. À l'instant, les autres terrorisés cessèrent de chuchoter et restèrent béants, attendant ce qui allait se passer. Jean-Jacques cria furibond. Ah, mais ça, qu'avez-vous donc tous à me regarder comme des veaux? Est-ce que j'ai quelque chose d'étrange, surnaturel? Et tout en parlant, il secouait sa victime si violemment que l'homme râlant à moitié suffoqué, on se précipitait au secours du malheureux, et Malabili, qui n'avait aucune envie de lâcher sa proie, songeait déjà au soulagement que lui procurait une bonne batterie, lorsque le contremaître apparut tout à coup. Ce fut comme une détente. Ceux qui allaient attaquer Jean-Jacques demeurèrent immobiles, et celui-ci, presque sans le vouloir, desserra les doigts. « Qu'y a-t-il ? » interrogea le contremaître. « Une rixe déjà ? Vous serez mobile que ce n'est pas admis par ici, et que si vous voulez vous faire renvoyer des doigts, c'est le bon moyen. Est-ce ma faute si tous ces imbéciles se sont pris pour un phénomène et se sont poussés du coude en me voyant arriver ? Ma foi, je ne suis pas endurant, c'est vrai, la moutarde me monte au nez. J'ai cogné droit devant moi. Sans compter que je suis peut-être énervé pour avoir mal dormi cette nuit. Ah ah, fit-on de tous côtés avec empressement. Le commissaire lui-même, oubliant le flagrant délit, prononça : Dites-nous ce que vous avez entendu. Et Mabille fit le récit exact de ses mésaventures. Aussitôt, chacun de se récrier, de le questionner pour avoir de plus amples détails, et l'envie de savoir était si passionnée que toute animosité avait disparu, et que l'homme attaqué se montrait aussi curieux que les autres. Lorsque Jean-Jacques eut tout dit, on lui apprit enfin que la maison, autrefois très agréable, était hantée depuis 2 ans. Tous les soirs, on y avait entendu le grondement, et chaque nuit, elle avait été mise sans dessus-dessous, sans que jamais ceux qui s'y avaient logé eussent voulu y rester, ou dire ce qu'ils avaient vu. Jean-Jacques écoutait rêveur. Puis, comme il était très brave, qu'il ne croyait pas aux revenants et qu'il n'était pas fâché de montrer sa bravoure, « Bon, bon, chanson que tout cela !» Donnez-moi seulement la maison, j'en fais bon affaire. Le soir même, avant de rentrer chez lui, il eut soudain l'idée d'acheter une lanterne bien garnie de pétrole. Puis, tranquille comme Baptiste, un peu fier de sentir l'attention de ses camarades sur lui et d'être le point de mire de tout le chantier, il s'achemina vers sa maison et, chemin faisant, il songeait à la bonne soupe, petite soupe, qu'il allait préparer avec les provisions qu'il apportait du village. Une fois entré, la porte fermée derrière lui, il alluma un grand feu, rangea tant bien que mal le mobilier de la cuisine et se mit un devoir de faire taire sa peur et de faire cuire son souper. Et juste comme il finissait de manger, il entendit le grondement de la veille se produire à l'étage au-dessus. Ça roulait, avec une vitesse vertigineuse. Et le vacarme augmentait de minute en minute. Alors Jean-Jacques dit très haut, « Viens donc par ici, mauvais gars !» Qu'on te voit au moins. Il n'avait pas pu prononcer ces paroles qu'il entendit le bruit dégringoler l'escalier et vit la poutre porte de la cuisine s'ouvrir. Alors une boule noire entra, tourbillonnante, fit en une seconde le tour de la pièce, après quoi elle disparut, aussi vite qu'elle était venue. Le vacarme continua dans la chambre à coucher, et tout de suite après, comme si la bouche eût percé le plafond, dans leur chambre d'en haut. Reviens, reviens! Cria Jean-Jacques, hurla Jean-Jacques impérieusement. La boule obéit aussitôt. Mais cette fois-ci, l'homme se tenait en garde, et dès qu'elle eut passé le seuil, il lança sur elle à toute volée un couteau poignard largement ouvert. Le couteau siffla en l'air, passa sur la boule à la distance d'un cheveu et sans la toucher, alla se ficher en terre. Oh, il fallait en finir. Mabil chercha sous sa blouse, en tira un revolver chargé. Puis au moment où la boule repassait si près de lui qu'elle effleurait presque ses pieds, il tira sur elle à bout portant. La boule ne dévia pas de l'épaisseur d'un cheveu et n'arrêta pas une seconde sa course vertigineuse. Résolu à vaincre coûte que coûte, Jean-Jacques, les mains en avant, bondit à la poursuite, essayant de la saisir à bras-le-corps. C'était une course fantastique et sauvage. L'homme criait, râlait presque. « Oh, je t'aurai, mauvaise bête, je perdrai ma peau !» Ses prunelles s'injectaient de sang, ses lèvres devenaient baveuses, une folie lui montait à la cervelle. Il se tapissait dans les coins, restait accroupi plusieurs minutes, puis quand la boule revenait, insolente et ironique, il se priait de ses efforts et lui échappait sans cesse. Vers le matin, harassé de fatigue, terrassé par l'insomnie, désespéré de n'avoir pu venir à bout de son ennemi, il eut une défaillance, prit mal son élan et alla heurter le crâne contre un poêle de faïence et croula par terre évanoui. Il était 8 heures lorsqu'il revint à lui. Encore un peu hagard, il se leva avec peine, drapa sa tête et ses mains dans un seau d'eau froide, mangea un morceau, finalement, se rendit au chantier, demanda le contremaître, sitôt qu'il l'aperçut, lui dit « Écoutez, dit-il très sombre, reprenez votre damné baraque ou le diable que le diable hante. Bien sûr, j'aime mieux dormir sur la terre dure que de mourir de sommeil dans un bon lit. » Aux ardoisières de Servoz, du côté de Chamonix, tout le monde vous contera cette histoire. La maison existe. La borne aussi. Plus de 20 hommes l'ont vu, l'ont poursuivi, traqué, sans jamais pouvoir la saisir. Expliquera la chose qui pourra.